Les colloques du Collège de France.
Bienvenue à tout le monde. Nous allons parler d'un temps que les moins de 50 ans n'ont pas connu. Il y a quand même un certain nombre d'entre vous qui n'ont pas connu cette période. Alors, ce n'est pas de dire que c'était mieux avant ou que c'était pire avant, mais chaque période a sa spécificité historique. En général, les collectivités humaines, enfin récentes en tout cas, ont souvent des raisonnements par décennies. Alors, décennies qui correspondent souvent aussi à des assimilations un peu à une génération. Mais en tout cas, nous avons des images qui sont associées à une décennie, par exemple les années 20, du siècle dernier, qui sont rugissantes, les folles années, puis les années 30 qui sont beaucoup plus sombres. Alors, évidemment, les années 60, dans notre mémoire collective, nous renvoient plutôt à la musique rock, aux Beatles, aux Rolling Stones. Tandis que les années 70, ce serait plutôt le disco. Donc il y a peut-être des changements de qualité d'une décennie à l'autre, même si évidemment les musiques continuent, les artistes continuent jusqu'à aujourd'hui. Marc Jagger est toujours là. Néanmoins, cela peut avoir des croisements avec nos préoccupations. En 1980, à Alep, il y avait Gloria Gaynor, reine du disco, qui devait faire un concert. Or, la ville était en pleine guerre civile entre les frères musulmans d'un côté et les services de sécurité du régime d'Al-Assad, les Mourabarat. Et donc, il y avait quand même un problème et il y a eu une trêve qui a été négociée entre les frères musulmans et les Mourabarat pour qu'ils puissent tous aller au concert pacifiquement. Et puis le lendemain, ils ont repris le combat. La musique adoucit les mœurs, relativement. Alors, les années 1970, c'est d'abord encore des années de guerre froide et même de guerre chaude, puisque la guerre du Vietnam se poursuit jusqu'en 1974-75, même si la fin officielle, c'est... Donc, imaginez, rappelez, moi, c'est un souvenir que j'avais un premier séjour aux États-Unis en 1972, quand vous ouvriez la radio ou la télévision, la première chose que vous avez, c'était au Vietnam aujourd'hui, et le Vietnam today. Et puis, on avait les nouvelles du Vietnam, et puis ensuite, les autres sujets d'actualité, qui était essentiellement américain, puisqu'en dehors du Vietnam, le reste du monde n'existait pas. Pour les Américains, je crois que ça continue, enfin pour la population américaine, je crois que ça continue jusqu'à aujourd'hui. Donc, des années chaudes de violence, mais en même temps, paradoxalement, les années 70 sont les années de la détente. C'est une détente en particulier conçue par des spécialistes de sciences politiques, une détente qui est fondée sur des équilibres de force. C'est la politique d'Henry Kissinger, le voyage en Chine, en quelque sorte, pas un renversement d'alliance, mais quand même un rapprochement sino-américain pour contrer l'Union soviétique, c'est quand même un élément important. Et puis ça accélère la crise du modèle communiste, dans la mesure où les deux grandes puissances communistes qui sont censées soutenir le Vietnam du Nord sont en même temps des puissances qui font un peu concurrence auprès des États-Unis. Mais surtout, ça, il faut le rappeler, il y a des grandes évolutions qui ne sont visibles qu'après. Les historiens sont très très bons pour prédire le passé, c'est-à-dire de découvrir dans les événements les signes annonciateurs de ce qui s'est ensuite produit. En général, les contemporains ne voient pas les plus grandes transformations en cours parce que de toute façon, ou simplement, ils n'ont pas les instruments pour les comprendre. Entre 1975 et 1980, il y a eu un immense basculement de la façon de penser le monde, mais aucun, à l'époque, ne l'a perçu. Je peux le dire, j'étais quand même adulte à cet âge-là, à cette époque-là, donc j'étais de ceux qui n'ont rien vu, évidemment. Alors, qu'est-ce qui s'est passé entre 1975 et 1980 ? Ben, en gros, c'est le passage du combattant à la victime et l'entrée dans l'ère des victimes. Dans mon souvenir, on voit 1975, la grande triomphe de la gauche mondiale avec la défaite américaine en Union soviétique. On célèbre à Paris la victoire des troupes nord-vietnamiennes, l'entrée des blindés nord-vietnamiens à Saigon et l'humiliation de voir les évacuations américaines par hélicoptère avec les gens agrippés. On a tous ces images en tête de la débâcle de 1975. Mais peu d'années après, ce sont les boat people. Brusquement, on inverse. Ce sont ceux qui ont été battus, défaits en 1975, sur lesquels il y a une demande sociale puissante d'intervention. Ils sont passés au niveau des victimes et on célèbre les victimes. Il y a l'épisode, début des années 80, mais ça fait partie du même contexte, de voir Sartre et Aron demander à M. Giscard d'Estaing une intervention française pour sauver les boat people en mer de Chine. Et ça boucle, en quelque sorte, une histoire idéologique et culturelle qui a été celle d'un long XXe siècle qui se termine probablement à ce moment-là. Bon, Osbaum, je crois, fait terminer justement son ère des discours, je ne sais plus quel terme il utilise, Osbaum, à 1989 ou 91 dans mon souvenir. Donc il y a bien quelque chose à ce moment-là. Et rétrospectivement, si on voit les grandes organisations internationales humanitaires, elles sont pour l'essentiel créées dans les années 1970. Human Rights Watch, Médecins du Monde, Amnesty International est un petit peu avant, mais elles sont pratiquement toutes émergées dans la décennie des années 70 et elles sont centrées sur les victimes. Alors, évidemment, ce changement de victime va introduire aussi quelque chose d'essentiel qui est un changement de temporalité. Changement de temporalité puisque depuis le début du XXe siècle, bon, depuis le XIXe siècle, on luttait pour l'amélioration du monde, pour un avenir qui sera heureux. Les jours heureux arrivent, en quelque sorte. Et donc, pour pouvoir créer le paradis sur Terre, bah, il est éventuellement indispensable d'utiliser la violence, ce qui est regrettable. La révolution ne se fait pas sans casser des œufs, si on dit, la formule étant évidemment qu'on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. Pour libérer les gens, il faut avoir recours à la violence. Et jusqu'aux années 70, l'horizon était celui de la libération, donc était un avenir. Or, avec l'ère des victimes, avec les grandes organisations humanitaires qui deviennent des acteurs essentiels, c'est plus l'avenir qu'on demande, c'est le maintenant, c'est l'immédiat. Donc on ne parle plus de libération à venir, mais de droits de l'homme maintenant. Et c'est la grande mutation entre 1975 et 1980. Alors, c'est évidemment quelque chose d'absolument essentiel, parce que nous vivons encore dans ce cadre qui s'est mis en place à la fin des années 1970, sans que les gens, je le rappelle, à l'époque, aient la compréhension de ce qui sont en train de se passer. Ensuite, ça arrivera à ce qu'on appelle le présentisme, mais c'est un autre sujet qu'aujourd'hui. Autre événement de cette fin des années 70, qui nous concerne directement, c'est le livre d'Edouard Saïd, L'Orientalisme, publié en 1978. Bon, un mauvais livre qui pose peut-être de bonnes questions, mais qui reste un mauvais livre, ne serait-ce que parce que, visiblement, il n'a travaillé que quelques mois sur le sujet et qu'il n'a pas abordé l'ensemble de la production orientaliste. Et le sous-titre de l'édition française dit tout et en même temps toute la contradiction du livre. L'Orient créé par l'Occident. Alors, il refuse l'idée d'Orient, ce qui est tout à fait légitime, mais il maintient un essentialisme qui est celui d'Occident. Et paradoxalement, lui qui accuse les Occidentaux d'essentialisme, son Occident est essentialiste depuis Échille, les Perses, jusqu'aux auteurs les plus... jusqu'à Norbert Lewis, si je peux dire. Donc, il y a un vrai essentialisme inversé dans le livre d'Edouard Saïd, qui a un immense impact à l'époque, mais surtout un peu plus tard, malgré tout, si on regarde les rééditions, c'est plutôt dans les années 1990 que Edouard Saïd est lu, et relu, cité, etc. Alors, il y a quand même une surprise. C'est quand il traite les Occidentaux d'essentialistes, il n'a absolument pas vu qu'au moins depuis le début des années 20, et encore plus depuis le début de la seconde après-guerre, 1945, l'essentiel de la problématique orientée vers les sociétés non occidentales, c'est celle de la modernisation, c'est-à-dire celle du changement. Et c'est la grande époque des théories de la modernisation. Et il n'y a pas un régime dans les pays décolonisés qui ne soit pas modernisateur. C'est l'époque de Rousseau, les étapes de la croissance économique, que je considère comme une des armes de destruction massive les plus efficaces jamais faites, puisque c'était devenu la Bible d'un grand nombre de régimes dans ce qu'on appelle le tiers-monde, en particulier de l'Égypte nassérienne. Nasser était en quelque sorte un disciple de Walt Rostow, et il avait distribué le livre à son entourage. Bon, ce qui n'a pas été génial pour l'économie égyptienne. Donc, l'accusation d'essentialisme est exactement le contraire de discours dominant que les sciences sociales pratiquaient à l'époque à destination du tiers-monde, puisque les théories de la modernisation sont toutes des théories du changement. Et de ce point de vue-là, on peut dire qu'il est complètement à défaut. Mais bon, de Marseille était un universitaire et il ne pratiquait pas les milieux qui étaient engagés dans l'action politique, gestionnaire de l'aide au tiers-monde, et ainsi de suite. En fait, la guerre froide dans l'ensemble du monde, comme l'a dit un des grands historiens du sujet, Whitstead, c'est l'opposition de deux modèles modernisateurs. Voilà mes deux orateurs qui arrivent en retard, donc je vais pouvoir cesser de délayer un peu. La guerre froide, c'est essayer de façonner des sociétés sorties de la colonisation occidentale à travers deux projets modernisateurs. L'un, celui impulsé par les États-Unis d'Amérique, l'autre impulsé par l'Union soviétique. Mais les années 70, alors je suis désolé, mon persan étant très faible, est-ce que tu dis Rabzadegui ou Garbzadegui ?
J'ai rien compris. Rabzadegui.
Rabzadegui. L'occidentalite. Cette maladie que les auteurs iraniens contestent depuis les années 50 et qui devient vraiment massive dans les années 70, l'occidentalite, c'est-à-dire être submergé par la culture occidentale. Il y a une perte d'identité culturelle parce que toutes les élites de l'Iran, mais ça s'étend à un ensemble d'autres pays, sont atteintes de cette maladie qui est l'occidentalite. Et il y a donc une contestation forte. Et ça nous amène à une citation très belle de Michel Foucault, bon, qui a eu quelques problèmes dans cette période des années 78-79, mais qui a écrit dans le Nouvel Observateur du, édition du 13-19 novembre 1978, « Le problème de l'islam comme force politique est un problème essentiel pour notre époque et pour les années qui vont venir. La première condition pour l'aborder avec tant soit peu d'intelligence, c'est de ne pas commencer par y mettre de la haine. » Et je crois que cette phrase de Foucault annonce énormément de choses, puisque c'est justement encore sur cette ombre, ou encore plus aujourd'hui, que nous vivons sur cette ombre. En effet, Michel Foucault était arrivé, en journaliste, en Iran. Il avait une mission de journaliste et il a couvert le début de la révolution iranienne. Il a semblé l'approuver, ce qui lui a été ensuite très durement reproché, surtout par les gens qu'il n'avait pas lus, d'ailleurs. Mais en fait, ce qu'il a vu, ce qui l'avait intéressé dans la révolution iranienne, c'était ce que Peggy aurait appelé la mystique. Pour un premier élan dans un mouvement, il y a un élan mystique. On est prêt à se sacrifier pour. Et tous les grands mouvements révolutionnaires commencent par de la mystique. C'est ce qui permet d'ailleurs de dépasser la peur. Quand vous interrogez les gens qui ont manifesté en 2011 dans le monde arabe, ils ont dit « on a pu dépasser la peur ». C'est ça, ce mouvement mystique qui est de dépassement de la peur. Et ce mouvement mystique, ensuite, inévitablement se dégrade en politique, en magouille, en lutte de pouvoir, où il n'est plus vraiment question de dominer sa peur, mais d'appliquer un programme, d'éliminer ses adversaires, y compris physiquement, etc. Donc, ce que Foucault avait saisi en Iran, c'était ce moment mystique. Bon, comme c'était la première fois qu'il le voyait, ça l'avait extrêmement impressionné. Mais ensuite, il s'est désintéressé du sujet, puisque c'était une dégradation en politique et ça n'entrait pas dans sa règle. Car, en effet, l'année 79, pour nous, elle commence d'abord le 1er février 79, quand l'ayatollah Khomeini atterrit à Téhéran après un exil de 15 ans. Alors, la révolution iranienne, évidemment, a déjà commencé, mais c'est un choc énorme que cette révolution iranienne. Or, les gens ne l'aperçoivent pas, les experts, vous avez la définition de l'expert, pas la mienne en tout cas, un expert c'est celui qui a le droit de se tromper en public et à qui personne n'en veut. Donc, comme vous voyez sur l'image du colloque, ces événements sont toujours vus dans le prisme de la guerre froide. Il y a l'ours soviétique qui est prêt à s'emparer du croissant musulman. Et c'est bien comme ça que les géopoliticiens de l'époque ont vu, perçu, senti. Et quand on lit par exemple les mémoires du général Schwarzkopf, il dit que jusqu'en 1989, les calculs militaires américains passaient toujours sur l'éventualité d'une invasion soviétique de l'Iran. Donc, il y avait bien ce prisme de la guerre froide qui était dominant et une certaine incompréhension. Alors, incompréhension qui était faite aussi sur les déficits de compréhension. Bon, moi, jeune chercheur, démarrant mes recherches dans les années 70, au milieu des années 70, allant pour la première fois au Proche-Orient dans le monde arabe en 1977, mes maîtres, et je les remercie parce que ce sont vraiment des maîtres, les Maxime Rodinson, Jacques Berck, Dominique Chevalier et autres, ne m'ont parlé que de nationalistes arabes. Relisez aujourd'hui les livres de Berck ou de Rodinson qui s'appellent Les Arabes. Il y a un optimisme sur une modernité reconstruite, etc. Même si Berck, ici au collège, parle quand même aussi d'authenticité à respecter ou à rétablir. Mais c'est une authenticité en termes de génie propre et non pas en termes d'héritage auquel pense Berck. Mais Berck, c'est vrai, pense assez souvent en termes d'authenticité. Mais en tout cas, tout le monde ne voyait que des Arabes. André Mekken, peu d'années après, me confiera la rédaction des derniers chapitres de son grand livre sur l'islam et sa civilisation, à réécrire les derniers chapitres. Et je me suis trouvé devant la situation où je devais réécrire un chapitre qui commençait « Aujourd'hui, les croyants cèdent la place aux citoyens ». Or, dans les années 80, ce n'était plus vraiment le cas. Bon, je me suis arrangé, et de toute façon André Mekken était toujours quelqu'un d'une extrême gentillesse. Alors, qu'est-ce qui se passe dans notre zone d'activité? Eh bien, nos dictatures modernisatrices se heurtent à un mouvement de contestation formidable qui est celle venue de l'islam politique. Et c'est bien ça, parce que la révolution iranienne donne le signal, accélère les mouvements, parce que par exemple en Syrie, ça a commencé l'année précédente, d'une véritable guerre civile entre nationalistes arabes modernisateurs et forces islamistes au sens large du terme. On n'utilise pas encore le terme islamiste, il sera utilisé un peu plus tard, me semble-t-il, mais en 79, le terme n'est pas encore entrer dans l'usage. Alors, cette guerre civile, bon, on la voit évidemment en Syrie, et ça durera jusqu'à 1982, jusqu'à février 1982, avec le massacre de Hama, mais aussi en Irak, et ça conduira à la guerre Irak-Iran, mais aussi en Égypte, avec l'assassinat de Sadat. Il y a bien donc une confrontation massive, sanglante, qui vont transformer les régimes arabes. Ils vont gagner par la répression. Et au lieu d'être orienté dans une perspective révolutionnaire, ils deviennent des facteurs conservateurs. C'est à partir de 1979 que le grand mot d'ordre des dictatures arabes sera plus la révolution, mais la stabilité, istikrar. C'est l'exigence de stabilité, la justification par la stabilité. Donc le tournant est absolument essentiel et en plus, on va vendre la stabilité aux Occidentaux en disant, si vous voulez que la région soit stable et que vos intérêts soient préservés, aidez-nous. Donc, il y a cette transformation de l'autoritarisme. Ils étaient déjà autoritaires. Il y avait déjà des morabarak partout. Mais c'était justifié par l'avenir radieux. Tandis que là, maintenant, c'est justifié par la défense de la stabilité sociale, de l'ordre social. Et donc ça aussi, c'est le grand changement. Et on va voir ensuite par pays comment tout ça se déroule. Alors, s'il y a donc une reconfiguration des discours, comme il y a une reconfiguration des forces politiques. Et c'est bien l'année 79 au sens large du terme qui joue là, avec les grands événements que nous allons avoir l'occasion de réétudier, la révolution iranienne, la prise de la Mecque par les mahdistes, je ne sais plus comment dire, enfin Stéphane en parlera mieux que moi, l'intervention soviétique en Afghanistan, la prise d'otages de Téhéran, et plus ce qu'on ne voit pas à l'époque, mais qui est aussi évidemment le traité de Washington sur ce qui concerne Israël-Palestine, tout ça, évidemment, sont des moments essentiels. Et puis aussi, par exemple, le second choc pétrolier, avec la conséquence que les pays n'ont pas prévue, c'est que jusqu'au premier choc pétrolier compris, le prix du pétrole a été fixé par des accords à long terme entre les compagnies, les majors et les pays producteurs. Donc, par exemple, quand on parle du quadruplement du prix du pétrole en 1973-1974, c'est sur les contrats à long terme que le quadruplement a lieu. Or, pour gagner un peu plus d'argent, les pays producteurs de pétrole, en 1979, lors du second choc, lié à la révolution iranienne, vont passer au marché au jour le jour, et non plus au contrat. Et donc, le prix du pétrole va démarrer sur des zigzags permanents. Vous entendrez à la bourse, le Brent est à temps, il a monté de temps, il a baissé de temps, etc. Il n'y a plus ce côté fixe que l'économie du pétrole et donc de la rente a joué. Et puis ensuite, il y aura évidemment le contre-choc pétrolier. Alors, on pourrait aussi évoquer pour cette période les données monétaires. C'est en 1979 que la Fed, donc la Banque centrale américaine, décide de casser l'inflation américaine. Et en cassant l'inflation américaine, elle casse l'inflation mondiale. Et le résultat inattendu, c'est qu'elle met l'économie soviétique dans le désordre le plus total, puisque l'Union soviétique est devenue une économie rentière. Et donc, contre-choc pétrolier plus fin de l'inflation, c'est-à-dire que l'Union soviétique vivait sur des emprunts dans l'économie occidentale, et brusquement, les taux d'intérêt passent de 2 à 3% à 15 à 20%, et ça met l'économie soviétique et du bloc de l'Est par terre, ce qui conduira à 1985, le début de la perestroïka. Là encore, ça fait partie des choses inattendues parce que la décision de 79 ne visait pas l'Union soviétique, elle visait l'inflation aux États-Unis. Voilà donc ces tournants qui font que... Alors qu'est-ce que c'est qu'un tournant à la limite? Est-ce que c'est un effet de seuil? C'est possible, c'est-à-dire est-ce que parce qu'on passe un certain cap, brusquement tout se reconfigure autrement? Ce serait donc un effet de seuil. En tout cas, tout ça, ce sont les questions que nous allons nous poser toute la journée à partir de la zone du Moyen-Orient au sens large du terme et de ce croissant de crise dont l'auteur est... celui qui a utilisé le premier terme, c'est Brzezinski, le conseiller diplomatique du président Carter. Croissant qui renvoie à la fois, évidemment, comme vous voyez sur l'image, à la viennoiserie, mais aussi à l'islam. Il se passe en 79 quelque chose d'essentiel dans le monde musulman. Alors Brzezinski dit ça va de la Malaisie à la Méditerranée, ce croissant de crise. Ou lui dit arc of crisis, mais le Times Magazine dit crescent of crisis. Et c'est bien ce changement qui est dans lequel nous vivons encore aujourd'hui qui nous intéresse.
Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-de-france.fr.